Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. Il peut y avoir des vérités dans les religions du monde. Un mélange de vrai et de faux. Monsieur Harper, il n'y a pas longtemps, a parlé du syncrétisme. Évidemment, ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours, syncrétisme. Et le syncrétisme, c'est le fait de combiner le culte à Dieu avec des pratiques qui ne sont pas des dieux, des pratiques païennes, par exemple, des pratiques païennes d'autres nations. Et il y a syncrétisme quand les gens mélangent certains aspects de leur croyance traditionnelle avec la vérité de Dieu. Un mélange de certains éléments religieux. Et le dictionnaire Le Robert parle de combinaison de doctrines, de systèmes initialement incompatibles. Dans sa parole, Dieu nous a mis en garde contre le syncrétisme. C'est très clair dans sa parole que Dieu est tout ce qui est associé avec la fausse religion. Même si ça semble être innocent, même si l'intention est de lui rendre un culte. Et quand l'ancien Israël est entré dans la terre promise, Dieu les a avertis de ne pas rechercher les enseignements, les traditions des nations qui habitaient le pays avant eux. Deutéronome, chapitre 12, et le verset 1. Deutéronome, chapitre 12, et le verset 1, Dieu a donné des instructions très claires, très précises. Verset 1, Deutéronome 12, verset 1, « Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez, aussi longtemps que vous y vivrez, toute la vie, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. » Verset 2. « Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. » Verset 3. Très clair, très précis. Verset 3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Il fallait enlever tout vestige de leur culte, il fallait enlever complètement, il fallait enlever entièrement, il fallait détruire. Il fallait rejeter. Dieu a donné à Israël une religion complètement différente. Il fallait supprimer leurs idoles et leurs images taillées. Verset 29. Toujours le même chapitre, verset 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans le pays, garde-toi de te laisser prendre au piège. Donc Dieu revient sur ce thème. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Il fallait pas revenir sur le passé. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Il fallait pas regarder le passé. Dieu avait révélé à Israël une autre manière de vivre. Il a donné la vérité. Verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car il servait le Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elle brûlait au feu le fils et le fille en l'honneur de leur Dieu. Il faisait des choses très très mauvaises. Verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Il n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit ou d'enlever quoi que ce soit. Ils avaient reçu une doctrine pure. Une doctrine pure parce que c'était de Dieu. Nous voyons un exemple de syncrétisme dans 1 Roi chapitre 12. 1 Roi chapitre 12, il s'agit donc de Jéroboam, qui était roi d'Israël à ce moment-là. Nous nous rappelons bien sûr qu'il y a eu scission, division entre Juda au sud et Israël au nord, avec le fils de Salomon. Nous savons que dans sa vieillesse, Salomon s'est éloigné de Dieu, et comme c'est marqué dans la Bible, Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. 1 Roi chapitre 12 parle, entre autres, de ce que Jéroboam, le roi d'Israël, a fait après cette séparation. 1 Roi chapitre 12, donc, est le verset 26. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, le fils de Salomon, qui avait le royaume de Juda au sud. Verset 27. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, donc roi de Juda. Verset 28. Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Nous retrouvons la même expression quand Israël a péché, une fois que Moïse était monté sur le mont Sinaï et qu'ils avaient fait un veau d'or, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Revenons à 1 Roi chapitre 12 et le verset 29. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et mit l'autre à Dan. Ce fut une occasion de péché. Ils ont commencé à mélanger la vérité de Dieu avec une pratique qui n'était pas de Dieu. Et pourtant, quand nous regardons le chapitre précédent, 1 Roi chapitre 11, nous voyons que c'était très clair ce que Dieu avait dit à Jéroboam par l'intermédiaire d'un prophète, Achija de Silo. Nous voyons déjà dans le verset 1 ce que Dieu a fait dire à Jéroboam, verset 31. Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon. Et je te donnerai 10 tribus. C'est donc Dieu qui lui a donné ces 10 tribus. Verset 33, Dieu donne la raison pour laquelle cette scission aura lieu. À ce moment-là, verset 33, mais cela parce qu'ils m'ont abandonné, ils se sont prosternés devant Astarté, donc les dieux païens, divinité des Sidoniens, devant Chemosh, Dieu de Moab, et devant Milcom, Dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, de pratiquer la religion pure de Dieu. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Jéroboam, donc, était au courant de pourquoi Dieu a permis cette division. Parce qu'ils sont allés après d'autres dieux. Verset 38, toujours chapitre 11, verset 38. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, c'est donc Dieu, l'Éternel, qui parle à Jéroboam par l'intermédiaire du prophète Achija. Si tu obéis à tout ce que je te donnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur. » Il y a trois « si » qui sont évoqués. Et ensuite, la suite du verset, « Je serai avec toi », donc la bénédiction, « si il obéit à Dieu, s'il marche dans ses voies, les voies de Dieu, et s'il fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. S'il agissait de la bonne façon, la Bible continue, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Il savait comment il fallait agir, comment il fallait se comporter. Mais revenons, si vous voulez, bien à Exode chapitre 32, où nous voyons un autre veau d'or qui a été érigé. Dans Exode chapitre 32, et le verset 4, c'est l'écriture, le verset auquel nous avons fait référence tout à l'heure, verset 4, en parlant d'Aaron. Il est reçu de leurs mains, des enfants d'Israël, jeta l'or dans une moule et fit un veau en fente. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Un mélange d'un culte à Dieu avec des pratiques qui n'étaient pas de Dieu, avec un veau en fente. Nous ne savons pas pourquoi les enfants d'Israël, Aaron et les enfants d'Israël ont choisi ce mélange de culte. Peut-être qu'ils s'étaient accoutumés à la culture égyptienne pendant toutes leurs années d'esclavage, mais ils ont pris les choses en main eux-mêmes, ils ne sont pas restés avec les instructions, les ordonnances, les commandements de Dieu. Ils pensaient qu'ils honoraient Dieu, mais en réalité, ils déshonoraient Dieu. Ils pensaient peut-être qu'ils s'approchaient de Dieu. La vérité, c'était le fait qu'ils s'éloignaient de Dieu en faisant du syncrétisme. Dans le verset 7, toujours au chapitre 32, Exode chapitre 32, le verset 7, nous voyons comment Dieu a réagi à ce qui s'est passé. Verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « Va descendre, car ton peuple, Dieu a pris de la distance avec les enfants d'Israël, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je l'avais prescrite, donc ils ont dévié par rapport à cette religion pure que Dieu leur a donnée. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fente. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Un immense affront à Dieu. Dieu est en colère face à un tel comportement. Verset 9, l'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, mais je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Nous voyons dans les versets suivants, l'intervention de Moïse. Moïse a imploré l'Éternel et effectivement, après, l'Éternel a changé. C'est marqué dans le verset 14, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Le prix à payer pour cet incident, pour ce syncrétisme, était élevé. Moïse a demandé que ce qui était pour l'Éternel s'assemble auprès de lui. Verset 27, les Lévites donc ont se sont assemblés auprès de Moïse. Verset 27, il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Ce que les enfants de Lévi ont fait, et 3000 enfants d'Israël ont péri ce jour-là. Et ceux qui n'ont pas été tués ont dû boire de l'eau polluée. Verset 20. Moïse y prit le veau qu'ils avaient fait, il le brûla au feu, il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Verset 21. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Voilà l'aboutissement du syncrétisme. Et nous trouvons la même chose si nous revenons à 1 Roi chapitre 12. Cette fois-ci, 1 Roi chapitre 12 et le verset 30. La suite de l'histoire, verset 30, se voulait en occasion de pécher. La même chose, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont péché, ils n'ont pas suivi la voie pure de Dieu. Verset 31, Jéroboam fit une maison de haut lieu et y créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il y a encore un détournement. Ça fait boule de neige. Si nous prenons une voie, un chemin dans notre vie qui n'est pas la voie de Dieu et que nous continuons à suivre cette voie-là, nous allons nous écarter de plus en plus de la voie de Dieu. Et donc, Jéroboam, avec les enfants d'Israël, s'est détourné de la voie de Dieu de plus en plus, et tout ça a commencé avec les veaux d'or, ce syncrétisme. Verset 32. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Donc, il s'écartait de plus en plus de la voie de Dieu. Il ne pratiquait plus la voie de Dieu et il offrait des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Il a multiplié les péchés. Verset 33. Mais il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, moi qu'il avait choisi de son gré. Il a fait fi de la religion pure de Dieu. Et pourtant, il avait été choisi par Dieu. Je lui avais encouragé à suivre sa voie. Je continue le verset 33. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Nous voyons aussi dans le chapitre 13 la suite, si vous voulez, la suite de cette histoire. Dieu, bien sûr, est au courant de ce qui se passe. Chapitre 13 et le verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. L'homme de Dieu prononce une prophétie, mais regardons le verset 4, parce que nous voyons ici la réaction de Jéroboam. Lui qui a pratiqué le syncrétisme, nous voyons ici dans le verset 4 qu'il est devenu hostile à Dieu, hostile à la parole de Dieu. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et ne put le ramener à soi. Il est devenu ouvertement hostile à Dieu et à son serviteur. Verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu. C'était pas plus son Dieu. Il dit ton Dieu. Et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Mais il n'y a aucun signe de repentir de sa part. Il est allé très très loin dans sa voie, dans la mauvaise voie. Il y a un autre exemple que nous pouvons voir dans Sophonie chapitre 1 et le verset 4. Sophonie chapitre 1 et le verset 4. Je saute au milieu d'un contexte. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu le reste de Baal. Donc, il est question de Baal, il est question de quelque chose qui n'est pas de Dieu. Verset 5. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Et nous avons deux passages dans Deutéronome qui sont très clairs à ce sujet et qui montrent que Dieu n'a pas voulu qu'on se prosterne devant l'armée des cieux. Je vous donne les deux références. Je ne vais pas m'y rapporter, vous pouvez le regarder à la maison. Il s'agit de Deutéronome chapitre 4 et le verset 19. Deutéronome chapitre 4 et le verset 19. Et Deutéronome chapitre 17 et le verset 3. Deutéronome chapitre 17 et le verset 3. Donc je reviens à Sophonie chapitre 1. Nous étions avec le verset 5. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par le roi. Nous voyons ici donc un mélange, nous voyons donc de nouveau du syncrétisme et nous voyons également que Dieu punit ce genre d'action. Je continue dans le verset 6. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel, c'est ce qui se passe quand on fait du syncrétisme, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Et c'est justement la réalité de ceux qui pratiquent le syncrétisme. Ils ne cherchent pas l'Éternel, ils se détournent de l'Éternel, ils ne le consultent pas. Et nous avons vu avec Jéroboam à quel point il est même devenu hostile à Dieu, hostile à l'homme de Dieu que Dieu a envoyé. Le syncrétisme est un mélange. Le syncrétisme n'est pas une religion pure. Et ça m'emmène au sujet de ce sermon, une religion pure. Il y a des références qui disent qu'il ne faut pas imiter la voix des nations, c'est ce que Dieu a dit à Israël à l'époque, et des références qui sont explicites, qui sont très claires, qui sont très précises. Nous le trouvons, je ne m'y rapporte pas, nous le trouvons dans Jérémie chapitre 10 et le verset 2. N'imitez pas la voix des nations, Jérémie chapitre 10, verset 2. Nous le trouvons aussi dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 9. Deutéronome chapitre 18 et le verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Dieu déteste ce qui ne vient pas de lui, ce qui n'est pas pur, le mélange dont nous avons parlé jusqu'à maintenant dans le sermon. Et parfois, par orgueil, les gens pouvaient être présomptueux, c'est-à-dire qu'ils avaient une confiance excessive en eux-mêmes. Ils pouvaient avoir une désinvolture à l'égard des autres. Et les gens, c'est ce qui s'est passé avec Roboam que nous avons vu, les gens pouvaient prendre la liberté à liberté qui n'était pas autorisée par Dieu pour altérer les instructions que Dieu avait données. La loi de Dieu est très claire en ce qui concerne un comportement présomptueux. Nous le voyons dans Nombres chapitre 15. Si nous regardons à partir du verset 22, il est question de pécher involontairement. Et ensuite, il y a plusieurs versets qui en parlent. Dans le verset 29, nous voyons que Dieu ne fait exception de personne. Verset 29, « Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. » Mais nous voyons dans le verset 30 qu'il y a un autre cas de figure, une autre attitude qui est démontrée, verset 30, « Mais si quelqu'un indigène ou étranger agit la main levée, et probablement vous avez une annotation en bas de votre Bible, c'est-à-dire ouvertement, impudemment, ce n'était plus le fait de pécher involontairement, c'était sciemment. Mais si quelqu'un indigène ou étranger agit la main levée, il outrage l'Éternel. » C'est un autre état d'esprit. Il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel. Et c'est ce qui se passe quand on commence à introduire des hérésies dans notre culte à Dieu. De mélanger le vrai et le faux. De passer outre de ce que Dieu a dit qu'il fallait faire, qu'il fallait pas faire. Il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, celui-là sera retranché et portera la peine de son iniquité. Le sort, l'aboutissement n'est plus le même, n'est pas le même. Nous trouvons la même pratique de syncrétisme dans le Nouveau Testament, nous le trouvons dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7 et le verset 6. Je saute ici au milieu d'un contexte. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain, verset 7, « C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Des commandements d'hommes qu'ils ont introduits. Verset 8, « Vous abandonnez, c'était grave, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Verset 9, il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Dieu nous a donné des instructions claires, précises. Nous voyons par exemple dans Apocalypse chapitre 22 et le verset 18, je ne m'y rapporte pas, Apocalypse 22 et le verset 18, à la fin de la Bible, « Je le déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Nous avons ici le principe. Dieu nous a révélé comment lui rendre un culte. Il ne faut pas ajouter des choses qui viennent des hommes. L'apôtre Jacques, sous l'inspiration divine, parle de religion pure. Nous connaissons bien le passage dans Jacques chapitre 1 et le verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ce verset souligne la pureté de la religion puisqu'il parle de la religion pure et sans tache. L'ouvrage biblique Loueur donne comme définition, entre autres, dans un sens moral, et je cite, « libre de tout mélange à ce qui est faux. Pas du syncrétisme, donc. Libre de tout mélange à ce qui est faux, sincère, authentique. La religion de Dieu doit être authentique. Et l'autre mot, sans tache, que nous voyons aussi dans ce verset, c'est exempt de ce qui, par la nature des choses, est déformé, rabaissé, souillé, altéré. Altéré. Le verset 27 parle du comportement pour avoir, pour pratiquer une religion pure et sans tache. Mais la doctrine de la Bible, la doctrine que Dieu a révélée, est aussi une doctrine pure. Quand Paul a parlé à Timothée, il a utilisé l'expression la bonne doctrine. De la bonne doctrine que tu as exactement suivie. C'est ce que nous trouvons, je ne m'y rapporte pas, 1 Timothée chapitre 4 et le verset 6. Dans Tite et dans Timothée, nous trouvons l'expression saine doctrine. Saine doctrine. Et loueur, l'ouvrage biblique loueur, dans sa définition, parle de plusieurs définitions, il donne aussi les définitions au point de vue d'un métaphore, en parlant donc du mot saine, il dit de chrétiens dont les avis sont exempts de tout mélange ou erreur, contrairement au syncrétisme. De chrétiens dont les avis sont exempts de tout mélange ou erreur. Il parle aussi de quelque chose qui est, toujours la définition, quelque chose qui est en bonne santé. Nous trouvons aussi la doctrine dans l'Ancien Testament. Regardons, si vous voulez bien, Ésaïe chapitre 29. Nous savons qu'à l'avenir, Israël va arriver à une époque quand ils vont connaître la vérité de Dieu et qu'ils vont vivre de la vérité de Dieu. Leurs esprits vont être ouverts pour qu'ils puissent comprendre la vérité de Dieu, la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 29, le verset 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. De nos jours, les gens sont aveuglés et à l'avenir, ils vont voir, ils vont comprendre. Verset 24, toujours le même chapitre, verset 24. Ceux dont l'esprit s'est égaré acquerront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction. Recevront instruction. La version Martin traduit la fin de ce verset par doctrine. Doctrine. Et le Darby parle de la bonne doctrine. La bonne doctrine. Et ça viendra, bien sûr, de Dieu. Pas de syncrétisme, mais une religion pure. Psaume 15, psaume de David, pose la question à Dieu à propos de qui veut séjourner dans sa tente. Je lis le psaume 15 et le verset 1, psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Tu, chrétien, veux séjourner dans la tente de Dieu. Ensuite, à partir du verset 2, il y a toute une liste de ceux qui veulent séjourner dans la tente de Dieu. Verset 2, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Et le fait de pratiquer la justice, c'est la pureté en action. Et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il ne pêche pas. Et ensuite, le verset 4, le verset 5 donne d'autres détails à propos de cet homme qui veut séjourner dans la tente de l'Éternel. J'ai voulu vous lire un commentaire de Expositor's Bible Commentary, donc c'était traduit en français, qui dit ceci. À l'approche de Jérusalem, la cité de Dieu, où se trouvait son sanctuaire, sur la colline sainte, les pèlerins devaient s'examiner avant d'entrer dans le parvis du sanctuaire de Dieu. Ils devaient s'examiner avant d'entrer dans les parvis du sanctuaire de Dieu. Et bien sûr, on peut s'examiner avec tout ce qui est décrit à partir du verset 2 dans le même chapitre. Il y a un psaume qu'on peut mettre en parallèle avec le psaume 15 qui lui donne un détail supplémentaire. Dans le psaume 24, dans le verset 3, il y a deux questions qui sont posées. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusque son lieu saint? C'est une question, deux questions qui sont similaires à ce que nous venons de voir dans le psaume chapitre 15. La réponse est donnée dans le verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et puis dans le verset 5, nous voyons les conséquences. Verset 5, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Avec un cœur pur, nous pouvons construire sur une bonne fondation. Et c'est très important que notre fondation soit bonne, solide, pour que nous puissions construire correctement. Nous sommes familiers avec une écriture dans 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 8, où il est question des pains sans levain. Je ne vais pas m'y rapporter, c'est une écriture que nous connaissons bien. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 8, qui dit ceci. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais comment? Mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. La vérité, c'est la bonne doctrine de Dieu, qui est pure, parce que ça vient de Dieu. Dieu nous l'a donné pour que nous puissions le suivre et pour que nous puissions éviter de pécher, justement. Dieu a précisé dans Jean 4, 24, je ne m'y rapporte pas, Jean 4, 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, mais pas en mélangeant le vrai et le faux. Et si nous avons un cœur pur, nous allons vivre la fête des pains sans levain. Nous n'allons pas être parfaits, nous ne serons jamais parfaits pendant cette vie, mais nous irons dans la bonne direction. Nous allons progresser spirituellement, et c'est important. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, tendons à ce qui est parfait. Il faut avancer, il faut progresser, il faut tendre à ce qui est parfait. Il nous faut être engagés vis-à-vis de Dieu et sa religion pure. Il n'est pas difficile de voir comment ne pas mettre de mauvaises choses dans notre vie, dans notre comportement de tous les jours, mais Dieu veut, et c'est peut-être plus difficile pour nous de le voir, mais Dieu veut aussi que nous introduisons la pureté, que nous vivons avec la pureté dans nos vies. Nous voyons dans Ézéchiel chapitre 36, nous voyons deux choses, nous voyons le rôle de Dieu et nous voyons notre rôle. Dieu a parlé à Israël à l'époque, dans Ézéchiel chapitre 36. Le parallèle est aussi, bien sûr, vrai pour nous. Ézéchiel chapitre 36. Les deux choses sont mentionnées dans le même chapitre. Et le verset 25, pour commencer, Ézéchiel 36 et le verset 25. Vous pouvez constater, vous avez probablement un titre au début du chapitre dans votre Bible, le rétablissement d'Israël. Et donc, le verset 25 dit, c'est pour Israël, c'est pour l'avenir, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et donc, c'est Dieu qui purifie. Mais nous avons aussi, l'Israël va avoir aussi sa propre responsabilité, comme nous, nous avons notre propre responsabilité dans l'équation. Verset 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Israël va être touché profondément et vont se repentir. Et le repentir, bien entendu, n'est pas quelque chose qui est naturel pour l'être humain. Il faut que ce soit Dieu qui lui accorde le repentir. Il y a donc ces deux aspects dans l'équation. Dieu purifie, mais aussi de l'autre côté, il y a le repentir, comme nous venons de voir. C'est dit un peu différemment dans 1 Jean chapitre 3. On va lire à partir du verset 1. 1 Jean chapitre 3 et le verset, l'épître de Jean, donc chapitre 3 et le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a donné son esprit et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est un avenir magnifique qui dépasse l'imagination. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, l'espérance de cet avenir, de ce futur, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dieu est pur et Dieu veut que nous purifions. Et ça rejoint la fête des pains sans levain est ce que nous avons lu tout à l'heure, de célébrer la fête avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est notre responsabilité en tant que chrétien de rechercher ce qui est bon et pur et de pratiquer la pureté. Psaume chapitre 12, et le verset 7. Psaume chapitre 12 et le verset 7. C'est possible que ce soit le verset 6 dans votre Bible. Bon, dans la mienne, c'est le verset 7. Donc, je lis. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. Des paroles pures, sept fois épuré. Ça nous démontre à quel point les paroles de Dieu sont pures. Et donc, les paroles de Dieu, quand nous pratiquons les paroles de Dieu, la Bible, c'est la pureté en action. Du reste, c'est ce que nous voyons dans Psaume 119, verset 9, où la Bible pose la question, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse nous est donnée en se dirigeant d'après ta parole. C'est notre feuille de route, sans ajouter, sans retrancher. Notre feuille de route telle que Dieu nous l'a donnée. Nous sommes familiers aussi avec Matthieu chapitre 5 et le verset 8, une des béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc ceux qui ont la pureté morale intérieurement, ça doit venir du cœur. Du reste, dans 1 Timothée chapitre 1 et le verset 5, 1 Timothée chapitre 1 verset 5, nous lisons « Le but du commandement, c'est une charité, l'amour, l'amour venant d'un cœur pur. » C'est le point de départ, un cœur pur. Pour que nous puissions avoir cet amour dont la Bible parle et réaliser le but du commandement. Et en méditant, nous pouvons voir comment nous pouvons mieux vivre une religion pure. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. De concentrer sur les choses qui sont pures. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. D'y réfléchir, d'y penser, d'y méditer. C'est donc plus qu'une idée, c'est plus que l'absence du péché, c'est à voir avec la croissance, la transformation, notre transformation, en mettant en pratique la parole de Dieu. Il faut que ce soit ancré en nous, cette conception de la pureté, ancrée dans nos esprits et ancrée dans nos cœurs, et que nous ne vivons pas avec des demi-vérités. Paul a dit à Timothée, « Conserve-toi pur » dans 1 Timothée 5, 22. Mais pour se conserver pur, il faut faire attention. Vraiment faire attention. Et comment est-ce que nous pouvons rester purs et garder notre religion pure? Justement, en ne pas mélangeant des traditions du monde avec les instructions précises de Dieu. Nous ne sommes pas loin des fêtes de fin d'année en ce moment. Et il est possible d'être influencé, d'être pris par les fêtes ou l'ambiance des fêtes, même si on ne les observe pas, parce que c'est tout autour, ça va être tout autour de nous. Et si notre famille n'est pas dans l'Église, ça peut être une période difficile. Mais il ne faut pas que nous oublions les origines de ces fêtes. Il ne faut pas que nous oublions ce que Dieu pense de ces fêtes. Et pendant que nous vainquons, il nous faut maintenir la pureté dans notre pratique et continuer à croître. De rechercher la perfection. De tendre à ce qui est parfait. La pureté nécessite de la planification. Bien entendu, ça passe par le repentir. Quand nous changeons notre caractère, quand nous changeons notre façon de penser, Dieu cherche la pureté chez nous, dans notre pratique de sa voie de vie et dans l'observance de ses instructions. Dieu est parfait, Dieu est pur. Il nous faut devenir de plus en plus purs, avec une attitude pure pour refléter justement le caractère de Dieu. De méditer plus profondément sur ce que Dieu attend de nous. Que nous pratiquions une religion pure, sans mélange, sans édulcorer la vérité, en pratiquant sa parole qui est pure. Comment enseignerons-nous la vérité de Dieu dans son royaume si nous ne pratiquons pas une religion pure maintenant? Il nous faut veiller à garder notre religion pure, sans mélange, sans aucun syncrétisme.